9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche, merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Paul-Max Morin.
Bonjour Samia.
Merci d'être là ce dimanche matin, nous allons parler de Les Jeunes et la guerre d'Algérie, c'est le titre de votre ouvrage, il vient de paraître aux éditions PUF. Paul-Max Morin, vous êtes chercheur au CEVIPOP et vous enseignez à Sciences Po à Paris. Vous avez collaboré à plusieurs projets scientifiques, pédagogiques et culturels sur le sujet étant l'Algérie. Et vous êtes co-auteur d'un podcast Sauce Algérienne qui a été produit par Spotify en 2022. Et ça, c'est aussi une belle pièce sur l'histoire, une pièce originale, audacieuse, hein. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un des collaborateurs de Sauce Algérienne récemment et vous allez nous en parler. Mars 62, mars 2022, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, diront certains, pour d'autres ce sera la fin de la guerre d'Algérie, c'est l'indépendance de l'Algérie, au lendemain de 130 ans de colonisation, une guerre qui dira pas son nom dans un premier temps, elle était nommée événement, mais en tout cas on parlait en mars 2022, 60 ans après, c'est comment raconter l'histoire, et c'est de ça qu'il s'agit, Paul-Max Morin, dans votre livre « Les Jeunes et la guerre d'Algérie », c'est comment raconter l'histoire, comment apporter aujourd'hui cet éclairage pour comprendre ce que fut cette guerre et ce qui a été transmis de cette histoire. On va rappeler quand même qu'il y a près de 30 livres qui sont sortis, hein, ces deux mois de ce début d'année 2022 qui paraissent pour parler de l'histoire avec des témoignages, des photos, des archives pour compléter justement cette connaissance pour chacun, chacune. À la télé, de nombreux documentaires, hein, des documentaires remarquables d'ailleurs. Les uns sont de Raphaël Branche, d'autres de Georges-Marc Benamou avec Benjamin Stora. Là aussi, toujours des témoignages et cette envie de raconter l'histoire au travers celles et ceux qui en sont porteurs. Je veux dire de ceux qui sont les héritiers, on va les appeler comme ça, de cette mémoire de l'Algérie, des pieds noirs, des harkis, des juifs d'Algérie, des appelés, mais enfin tous ceux qui sont, pour beaucoup, dans une approche de l'Algérie, j'allais dire qu'ils vont aimer, peu, pas, passionnément. Et voilà un peu comment l'idée de cette introduction me vient quand on parle de l'Algérie depuis quelques semaines au cours de cette émission. Alors évidemment, toutes ces parutions sont essentielles pour la compréhension et le vôtre aussi. Alors le vôtre, on va tout de suite y rentrer, Les Jeunes et la guerre d'Algérie, je rappelle qu'il vient de paraître aux éditions PUF, vous êtes historien, universitaire et vous allez au travers ce livre mener une enquête auprès de 3000 jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans, je crois, ils sont enfants, petits-enfants, justement de ces, ce qu'on va appeler, groupes mémoriels maintenant, hein, autour de l'Algérie. Ils sont donc des harkis, des fils de harkis, de la communauté juive aussi, de militants du FLN ou de l'OAS, et ils vont porter, et ils vont vous dire, ils vont témoigner de ce qui a été transmis par leurs parents ou leurs grands-parents. Peut-être, avant de répondre à cette première question, que vous inspire ce que je disais dans cette introduction, certes longue, mais de cette commémoration 60 ans après et l'importance qu'elle revêt. En 2012, on était dans les 50 ans, etc. 2002, dans les 40. Toutes ces décennies sont des marqueurs importants dans le tournant de la société française. Paul-Max Morin.
Oui, et les 60 ans peut-être encore plus, parce que je pense qu'il y a trois dimensions avec ce 60e anniversaire. Il y a une dimension générationnelle d'abord, puisque toutes les personnes qui ont vécu les événements ont beaucoup vieilli ces dernières années et donc s'apprêtent à disparaître. Donc il y a vraiment un tournant générationnel avec une génération qui part et une autre qui émerge, qui a entre 20 et 30 ans. Et cette nouvelle génération, elle commence à exprimer des besoins qui lui sont propres, des besoins d'histoire, des besoins de connaissances, des besoins de redécouverte de cette histoire-là. Et ça, c'est assez propre à ces 60 ans, parce qu'il y a 10 ans, c'était un peu moins le cas. Il y a une importance mémorielle, hein, vous l'avez souligné. Les 60 ans approchant, la société française, elle s'est mise en mouvement, elle s'est beaucoup ouverte ces dernières années. Il y a eu un fort militantisme des associations qui ont porté des initiatives sur le sujet depuis les 50 ans, énormément de productions scientifiques, de productions audiovisuelles, des documentaires, des expositions, des livres, des romans. Je crois que la rentrée littéraire de 2017, c'était presque 17 livres sur les histoires coloniales ou l'histoire algérienne. Donc on sent que la société française, elle s'ouvre après des années de... pas forcément que du silence, mais de difficultés en tout cas à en parler. Et là, on est vraiment dans un passage de la mémoire à l'histoire qui fait qu'on va quitter progressivement les mémoires un peu douloureuses, instrumentalisées, pour rentrer dans un rapport plus
serein.
Serein, dans la confrontation aux faits et dans l'expression de récits un peu plus complexes que ce qu'ils n'étaient. Mais après, ça reste aussi la troisième dimension, finalement, ça reste un sujet politique. Et il y a cette dimension politique qui fait que les 60 ans, c'est aussi l'année d'une élection présidentielle. Ça arrive souvent avec, du coup, l'anniversaire de l'Algérie, puisque...
De toute façon, tous les présidents de la 5e République sont allés en Algérie.
Oui, c'est
on fait un passage obligé.
Un passage obligé.
En Algérie.
Faut savoir pourquoi. Un jour, peut-être, on sondera. Il y aura une enquête là-dessus pour savoir exactement ce qui s'y passe. Mais c'est sûr qu'il y a, c'est un passage obligé parce que l'Algérie fait partie, est tellement constitutive de l'histoire de France et de ce qui est devenu la France que finalement, comme elle renvoie à la question de la République et de ce que c'est que d'être français, comment on se définit comme français, tous les débats finalement sur l'identité nationale qui se sont imposés depuis les années 2000, renvoient à l'Algérie finalement. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est instrumentalisé politiquement et qui sert de clivage donc entre Emmanuel Macron qui fait des appels à la réconciliation ou Éric Zemmour qui nous annonce la guerre civile, l'Algérie est toujours au milieu pour venir dire quelque chose, non pas forcément du passé, mais bien du présent.
C'est-à-dire comment
on vit ensemble aujourd'hui et comment on se définit, comment on construit un projet ensemble. Et c'est pour ça que c'est aussi un sujet très clivant, mais politiquement plus que de manière mémorielle.
Alors, dans cette transmission de la guerre d'Algérie, puisque c'est ce travail-là que vous faites au travers de votre livre, Les Jeunes et la guerre d'Algérie, Paul-Max Morin, c'est un travail qui a été de longue haleine, j'imagine, puisque enquêter auprès de près de 3000 jeunes, ça veut dire que il faut les trouver. C'est pas compliqué, un Français sur quatre et un rapport avec l'Algérie. Donc, mon voisin de palier peut l'être, le vôtre aussi, et de manière plus sérieuse, un peu plus loin, évidemment, on en rencontre dans le quartier, à l'université, etc. Ça veut dire aussi que, vous l'avez souligné, le temps avance, et le temps nous permet aux uns et aux autres de parler. Les langues se délient aussi, comme dans les premiers conflits, au lendemain de 39-45, les anciens ne parlaient pas de leur guerre. La guerre, c'est une souffrance, c'est une douleur. Donc, chaque groupe mémoriel va, un peu plus tard, commencer à raconter qui son exil en 62, son départ, qui son immigration, nos parents. Voilà, et leurs enfants, aux uns et aux autres, de ces groupes mémoriels, vont commencer à l'entendre, mais l'entendre seulement. Et pas s'en emparer.
Oui, exactement. C'est quelque chose aussi qu'on a remarqué, étudié, qui a été observé par toutes les personnes qui ont travaillé sur d'autres périodes traumatiques, que ce soit le génocide des Arméniens ou la Shoah. C'est que finalement, la première génération qui vit les événements s'enferme un peu dans la douleur et peut garder cette douleur pour soi. La deuxième génération, on transmet peu parce qu'on a envie que les enfants s'intègrent et pensent à autre chose. La troisième génération, pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire pour se sentir bien en France et se sentir ancré, a besoin au contraire de redécouvrir cette histoire-là. Et dans la relation grands-parents-petit-enfant, il se passe quelque chose qu'il ne se passe pas forcément dans la relation parent-enfant, parce que la relation filiale, des fois elle est chargée d'autres choses qui font que les parents racontent pas forcément aux enfants, alors que les grands-parents vont s'autoriser, surtout lorsqu'ils sont à la fin de leur vie, à se dire on va lâcher le truc avant de partir. Et les petits-enfants d'aujourd'hui, ils sont aussi mieux armés que leurs propres parents pour poser des questions, parce qu'en fait, ils ont mieux étudié cette histoire à l'école, dans la société française. Ils ont déjà entendu parler du 17 octobre 61. Ils savent ce que c'est, alors qu'il y a 30 ans, on ne le savait pas forcément. Ça, je crois que tu es bien placé pour le savoir, et c'est en partie ton travail et votre travail qui a permis ça. Et ce qui fait qu'ils peuvent, à table, ou questionner les grands-parents, mmh. et parfois provoquer une première conversation. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai, comme tu le disais, ça concerne énormément de gens. Il y a 39% des jeunes qui ont aujourd'hui un grand-père ou une grand-mère qui a un lien avec l'Algérie. Donc, c'est les descendants des millions d'appelés, des militants du FLN, de l'OAS, des pieds noirs, des juifs d'Algérie, des harkis, voilà, des immigrés algériens. Ça fait énormément de gens qui partagent une histoire finalement très intime avec l'Algérie. Pas forcément politisée, pas forcément de rancœur. L'Algérie, pour eux, c'est la relation aux grands-parents. Et c'est un mélange de nostalgie ou de curiosité, c'est-à-dire pour cette Algérie qui est un peu fantasmée parce que ils la connaissent pas vraiment, mais et ça c'est vraiment toutes les familles, hein, mais aussi de douleur parce qu'ils ont vu, ils sont un peu spectateurs de la douleur que portent les grands-parents sans en être porteurs eux-mêmes, mais ils voient très bien que ça a fait souffrir leur famille.
On va revenir dans une deuxième partie justement sur celles et ceux qui vont témoigner dans votre enquête sur cette histoire, cette transmission qu'ils ont eue sur le tard, pour beaucoup quand même, qu'ils ont cherché aussi, qu'ils ont provoqué, parce que c'est pas, vous l'avez rappelé, sur une première génération, c'était peu dit, mais un peu plus tard, ça a été dit, mais quand même, il faut, ils l'ont appris dans les livres d'histoire, et puis veulent en savoir plus, et puis bon, grand-père, tu vas me raconter, etc. Mais c'est pas évident à entendre. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Paul Max Morin. Nous parlons de Les Jeunes et la guerre d'Algérie. Son ouvrage vient de paraître aux éditions PUF.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Ce dimanche matin, le plaisir de recevoir Paul Max Morin. Il est l'auteur de Les Jeunes et la guerre d'Algérie. Son livre vient de paraître aux éditions PUF. Je rappelle que Paul Max Morin est chercheur au CEVIPOP et enseigne à Sciences Po et a travaillé beaucoup, beaucoup sur l'Algérie. Et ce travail, cette somme de travail, nous le précise là dans cette enquête qu'il a menée autour des jeunes et de la guerre d'Algérie. Je rappelle qu'il a enquêté auprès de 3000 jeunes de 18 à 25 ans, nous dit la présentation de son livre, et ils sont enfants, petits-enfants de harkis, de juifs d'Algérie, de militants du FLN ou de l'OAS. Comment vous avez prospecté? C'était un peu ce que je vous demandais tout à l'heure. Vous les avez rencontrés comment, les uns et les autres, qui ont accepté de témoigner, de se raconter, de se livrer?
Alors c'est toute la difficulté, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui sont concernés, il y en a beaucoup partout des jeunes qui dont c'est l'histoire familiale, et donc je les ai approchés soit à travers des associations, donc contacté des associations d'anciens, donc c'est l'entrée par les grands-parents, mais je pouvais pas non plus faire que ça parce que on sait aussi que les mémoires, elles sont beaucoup écrites par les associations de pieds noirs, de harkis, etc. Donc il faut aussi s'en éloigner pour pas que les enfants récitent forcément ce qui est...
Pour que l'histoire soit personnelle.
Voilà, soit personnelle, et qu'ils ne récitent pas finalement l'histoire toute faite, les mémoires toutes faites que les associations racontent. Donc ça, après, j'ai publié des appels à témoignages un peu partout, sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de faire une diversité géographique aussi pour avoir des gens qui sont du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, et surtout de plusieurs milieux sociaux. Parce que c'est aussi une histoire qui se mêle à l'histoire ouvrière de la France. Donc,
les Algériens étaient des émigrés.
Voilà, et des ouvriers.
Travailleurs.
Exactement. Donc, c'est d'ailleurs la principale transmission politique dans les familles d'immigrés ou de harkis. Elle n'a pas forcément à voir avec la dimension anticoloniale, mais elle a plus à voir avec l'histoire ouvrière. Exactement. Ils sont socialisés à gauche parce que ce sont des familles ouvrières. Et donc c'est voilà, donc je suis parti un peu en quête comme ça à travers toute la France. Fait beaucoup de, il fallait les sélectionner en fonction de leurs histoires, mais aussi de leur personnalité à eux, savoir ce qu'ils cherchaient en voulant témoigner, parce que en voulant me raconter leur histoire familiale, en fait les jeunes cherchent quelque chose d'eux-mêmes. Ils veulent savoir, ils veulent se positionner aujourd'hui dans leur famille ou dans la société française, et donc c'est aussi ça que j'essayais de sonder.
Et qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors, ils vous racontent le lien qu'ils ont, qui leur a transmis l'Algérie. Là, en ouvrant le livre, je vois qu'il y a, il y a Thomas, qui est descendant d'une famille juive d'Algérie, qui témoigne. Un peu plus loin, il y a d'autres fils de pieds noirs aussi. Il y a d'autres enfants d'Algériens immigrés. Il y a des enfants de Harkis. Tout ce qu'ils racontent viennent de, j'allais dire, de leur trip, de leur histoire singulière. Mais c'est ce qu'ils ont entendu aussi, ce qu'on leur a transmis. Comment ils se construisent avec cette singularité algérienne qu'ils ont en eux.
En fait, ma porte d'entrée, c'était de savoir dans quelle atmosphère ils ont grandi. Parce que souvent, pour eux, l'Algérie, c'est quelque chose un peu comme une sonorité magique. Ils grandissent dans un univers, une atmosphère où elle est présente, mais parfois indéchiffrable. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'Algérie va être peut-être partout autour d'eux, dans les tableaux, dans la décoration,
dans la culture,
dans des posters dans les toilettes, dans des récits, des villes comme ça qu'on égrène, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Oran, etc. Alors que eux ne connaissent pas. Et donc tout ça, c'est un peu un univers un peu magique. Qui pendant longtemps n'a pas beaucoup de sens, et puis quand il commence à se construire en tant qu'individu, ils se rendent compte que ça impacte sur leur vie, parce qu'on les renvoie à ça, notamment lorsqu'ils sont descendants d'Algériens ou de familles juives, parce que là, le fait qu'ils soient renvoyés à un ailleurs, que le regard des autres les renvoie à l'histoire, ils doivent se poser des questions. Ça vient d'où tout ça? Et donc pour se construire, et après ils vont poser des questions, faire ses recherches pour savoir d'où vient la famille.
Les renvoyer à un ailleurs, c'est ne pas les accepter en France, ça devient le racisme. Exactement. Au quotidien, l'interpellation de « toi t'es pas d'ici, retourne dans ton pays, même s'ils sont nés ici ».
Exactement, oui.
Ils l'évoquent, ça, les
Ah oui, c'est même l'essence. Voilà, ma recherche, elle commençait sur qu'est-ce qui reste de ce passé. On dit toujours des mémoires de la guerre d'Algérie qu'elles sont à la source d'une tension dans la société française, qu'il y aurait une guerre des mémoires, etc. Et j'ai voulu savoir où elle était, cette tension. Et la tension, elle n'est pas forcément dans les mémoires et dans ce que racontent les familles, mais par contre, elle reste dans le clivage politique et dans le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui. Parce que la tension que vivent les jeunes, c'est ça, ce qu'il reste de ce passé, ce qui fait encore tension, ce qui est encore problématique pour les jeunes. C'est pas forcément de savoir si on a reconnu tel ou tel geste mémoriel. C'est que aujourd'hui encore, ils sont victimes de racisme ou d'antisémitisme et ça leur pourrit encore la vie. Et ça vient de l'histoire coloniale en partie. Parce que ça a été produit dans ces 132 ans de colonisation et dans la guerre. Et ça s'est pas évaporé en 1962. Ces représentations sur les musulmans, sur les juifs, sur les Algériens, sur les Arabes et pendant la guerre sur les Harkis, ça s'est pas évaporé, ça continue à leur pourrir la vie, et c'est quelque chose qu'on met du temps à déconstruire.
Le racisme au quotidien, la recherche d'un emploi,
Oui, les discriminations.
Les discriminations au quotidien.
Qui les empêchent de trouver.
Un emploi, un logement, il y a des exemples là.
Exactement,
tout à fait.
Oui, il y a les jeunes qui sont d'origine algérienne ont 60% dans le livre, enfin, sont 60% à dire avoir déjà été discriminés. SOS Racisme a fait des testings.
Il n'y a pas longtemps.
Voilà, hier, ils montrent qu'encore les niveaux de discrimination sont très très élevés dans l'emploi. Donc c'est quelque chose qui doit attirer l'attention des pouvoirs publics, parce que c'est ce qui reste aussi de ce passé.
Et dans votre livre, ce qui est intéressant aussi, Paul-Max Morin, c'est ces tableaux et ces statistiques, entre guillemets, en tout cas, ces pourcentages justement d'approche sur l'Algérie, sur à la fois comment ils ont connu l'Algérie, ses descendants, et comment il y a eu des canaux de transmission, c'est le titre de ce tableau que je vois là ouvert dans le livre, sur la transmission. La transmission, elle s'est pas fait. Elle s'est faite par un professeur à l'école à 76%, mais c'est tout nouveau ça quand même. Parce que la guerre d'Algérie, elle était, au vu de certains historiens que vous connaissez, j'en suis sûr, qui le rappellent souvent, il a fallu se battre, que dans les manuels scolaires, les conflits étaient présents, hein, 14-18, la Grande Guerre et 39-45, mais il y a 15-20 ans qu'il y a la guerre d'Algérie. En quelques lignes, en demi-page et en double page maintenant dans les manuels scolaires, me disait un historien récemment. Ça veut dire qu'on avance là aussi sur l'éducation au niveau enfin l'éducation nationale, c'est le cas de le dire, pour la connaissance de la guerre d'Algérie, qui concerne tout le monde et pas que les Algériens ou les descendants d'Algériens.
Oui, bien sûr, ça concerne tout le monde parce que c'est l'histoire algérienne de la France, de toute la société française, et on peut pas comprendre la société française d'aujourd'hui si on connaît pas cette histoire-là, notamment l'histoire coloniale. Et c'est peut-être là l'ambiguïté ou l'ambivalence de l'enseignement. C'est-à-dire que, contrairement aux idées reçues, quand même, la guerre d'Algérie est enseignée depuis assez longtemps à l'école, puisqu'elle est rentrée au programme en 1983. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et surtout, dans les 10 dernières années, ça s'est beaucoup renforcé.
Oui, en 83, il y avait ce que je disais, oui,
Il y avait quelques lignes. Mais là, depuis quand même une bonne décennie... ça reste... Donc là, enfin, ça reste sur la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils connaissent les acteurs de la guerre d'Algérie, ils connaissent peut-être les principaux événements, mais ils connaissent que la guerre. Et tout ce qui manque, c'est les 132 ans avant, enfin, ou toutes les années de colonisation. Ça, c'est beaucoup moins enseigné, beaucoup moins connu. Et je parle pas simplement des dates, de savoir quand est-ce que ça a été conquis ou quand est-ce que c'était le décret Crémieux. Même ça, ils peuvent savoir. Mais qu'est-ce que c'était un système colonial? Qu'est-ce que ça a produit? Comment ça fonctionnait? Comment la République française et le capitalisme français se sont construits en faisant ce système colonial? Qu'est-ce que ça a produit en termes d'image, d'idéologie, de culture? Comment toutes ces images après ont circulé dans la société française? Et elles ne sont pas, voilà, tout ça, ça s'est pas évaporé, ça a produit quelque chose de très fort et qu'on a longtemps pas compris depuis les années 2000 grâce aux historiens et aux historiennes. On en sait un peu plus de la manière dont ça fonctionne, ce système colonial, et je pense que dans les prochaines années, c'est ce qui va se passer, c'est la découverte de ce que ce système a produit.
Sur ces tableaux, là encore, je vais m'y arrêter parce qu'il y en avait un autre aussi qui était important sur ces remarques. C'était sur la connaissance. Attendez. Je vais y revenir. C'était sur la connaissance justement de la guerre d'Algérie par ces jeunes. Il y avait. Alors sur la colonisation, vous venez de le dire effectivement. Il y a 39% de qui connaissent pas la colonisation, qui connaissent pas ce que vous venez de souligner. Mais il y a surtout sur ces tableaux. Les mots de la colonisation, voilà ce que je voulais chercher. Un peu ce que voulait dire pour eux les mots de la colonisation, c'était civilisation, développement, exploitation, racisme, domination. Ça, ils en parlent, les jeunes?
Oui, c'est...
Ils savent à peu près ça?
Oui, ils savent. C'est assez ambivalent, le rapport à la colonisation, parce que comme ils connaissent pas grand-chose, ils savent pas forcément se positionner. Donc ils oseront... Enfin, comme il n'y a pas eu de clarification morale et politique sur notre rapport à la colonisation, les jeunes héritent de ça. Et ils savent pas trop dire si c'était bien ou pas bien, ou en tout cas il y en a beaucoup qui vont dire je ne sais pas, je ne veux pas répondre à cette question-là. Mais par contre, quand on sonde leur rapport aux mots, au vocabulaire, on se rend vite compte quand même qu'ils ont une représentation très critique de la colonisation. La grande majorité des jeunes français aujourd'hui ont construit un consensus pour dire que la colonisation c'était négatif quand même, hein, que c'était un système violent, inégalitaire. Ça c'est quand même, lorsqu'on étudie leur vocabulaire, on s'en rend bien compte.
On va revenir dans une dernière partie de l'émission sur ce que vous avez déjà souligné tout à l'heure, c'est sur le 60 ans et le politique, et effectivement l'importance de politique. On a vu le président Emmanuel Macron rencontrer ses groupes mémoriels, hein, il a rencontré les harkis, ensuite il a rencontré lors de la pose d'une gerbe sur le pont de Beson les descendants du 17 octobre 61, les anciens et puis leur descendance, et l'importance que revêt justement ces signes et ces symboles, si on peut les appeler ainsi, vous nous en parlerez. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois Paul-Max Morin et nous parlons de Les Jeunes et la guerre d'Algérie. Son livre vient de paraître aux éditions PUF.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
L'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin est Paul-Max Morin. Nous parlons de Les Jeunes et la guerre d'Algérie. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions PUF. Sur le volet politique, cette commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, pour la nommer ainsi, ou de l'indépendance de l'Algérie pour d'autres, il est important de souligner les positionnements des présidents de la République. Je rappelais tout à l'heure que tous les présidents de la Ve République sont allés en Algérie. Au début de leur mandat, au milieu de leur mandat, c'était bonne conscience, ou en tout cas, vous nous en parlerez peut-être. En tout cas, le président Emmanuel Macron a posé des actes qui ont une certaine importance, on pourrait penser. Un travail important qui a été fait avec le rapport qui avait été commandé par Benjamin Sora, donc avec aussi la volonté de cet historien de demander d'avoir des préconisations sur des reconnaissances, celle de Ali Boumendjel qui avait été torturé par l'OAS. Donc le président a fait acte de cette reconnaissance, et puis il y avait d'autres préconisations qui étaient importantes, qui sont en cours. En tout cas, ce 17 octobre 61 ou le 16 octobre précisément, quand le président de la République va sur le pont de Beson, là aussi, il y a un acte important, semble-t-il, d'y être. Après, il y a des associations, des figures qui se battent sur la reconnaissance du 17 octobre 61 diront que c'est un petit pas qu'il fait en nommant simplement le préfet de police qui était à l'époque Maurice Papon. Donc cet aspect politique, pour les groupes mémoriels, c'est important. Vous l'avez rappelé, on est aussi dans une année présidentielle, dans un mois des présidentielles, pour le dire encore plus précisément. Est-ce que en parler politiquement par le président de la République, par les candidats, c'est aussi parler de réconciliation, c'est aussi faire apaisement de cette histoire entre la France et l'Algérie ?
Alors, ça dépend comment on en parle, en fait, et ça dépend quelle place ça prend dans le débat public. Si le débat, c'est de savoir comment on construit notre rapport à l'histoire et comment on se donne les moyens de mieux connaître cette histoire-là et de mieux la faire connaître, de mieux la vulgariser, et qu'on débat sur quel outil on met en place, est-ce qu'on crée une fondation, est-ce qu'on crée un musée, etc., ben ça, je trouve ça sain. Si la question, c'est de débattre, de savoir la colonisation, c'était bien ou pas bien, si c'est la France qui a inventé la nation algérienne ou pas, ouais. Ça, je trouve ça, c'est pas le rôle du politique de faire ça. Et c'est de toute façon très négatif en termes d'instrumentalisation, puisque ça renvoie aux questions identitaires et ça veut fixer les identités, ça remue des choses qui sont malsaines, et ça nourrit complètement autre chose, quoi. Donc ça dépend quelle place ça prend dans le débat public. Sur Emmanuel Macron, je pense que clairement c'est un président qui a fait de ce sujet le défi mémoriel de son quinquennat, hein, puisqu'il est presque rentré en politique. Il a fait disruption dans le jeu politique en faisant cette déclaration à Alger avec Khaled Drahni sur la colonisation serait un crime contre l'humanité.
Et il le dit à Alger, à Paris, il le dit plus.
Voilà, c'est ça. Il le dit candidat et pas président, forcément. mais c'est comme ça qu'il crée un clivage dans le système politique français et qu'il peut aussi exister et émerger en politique. Après, une fois président, il a quand même un certain volontarisme politique sur ce sujet qu'il faut souligner. Mais moi, je pense qu'il faut être exigeant avec Emmanuel Macron, pas parce qu'il faut être anti-macroniste, forcément, mais parce qu'il faut l'aider. Benjamin Stora l'a souligné récemment dans Mediapart, c'est-à-dire qu'autour d'Emmanuel Macron, il y a aussi des personnes, puis des forces politiques plus conservatrices qui refusent qu'on fasse ce travail critique. Je pense pas que ça soit lui, sa conviction personnelle, mais je pense qu'il est tenu par un entourage conservateur, par des personnes qui sont dans l'armée, dans la police, qui ne veulent pas qu'on fasse ce travail-là. Et donc il faut être exigeant parce que sur le 17 octobre, vous l'avez souligné, c'est un geste important, le fait d'aller au pont, mais il n'a pas prononcé de mots, c'est seulement une déclaration écrite, et la reconnaissance de l'unique responsabilité de Papon est insuffisante historiquement. Les historiens et les historiennes, on le sait, le regarder, enfin, c'est pas ça la vérité. Donc pour un président qui exige la vérité et répète qu'il faut regarder le passé en face, du coup il faut vraiment le faire, et pour ça il faut être exigeant pour pouvoir l'aider à aller dans cette direction.
Quand on parle de réconciliation des groupes mémoriels, ça semble difficile à mon avis. C'est une question que je pose à l'historien et à cette étude que vous faites. Les groupes mémoriels sont les uns à côté des autres. Il y a des ressemblances, on l'a rappelé, hein, ils peuvent se retrouver sur un mode culturel, sur un mode, mais les engagements sont tellement différents, c'est pas les mêmes histoires. En 62, la communauté juive qui quitte l'Algérie en mars 62 et dans les mois qui suivent et qui vont arriver dans le sud de la France, où les descendants d'Arki qui sont encore là et qui peuvent plus aller en Algérie, n'ont pas la même histoire que les enfants d'immigrés algériens, travailleurs, et qui portaient dans leur histoire un mythe du retour, par exemple. Les Algériens le savent. Nos parents nous disaient, quand vous aurez fini vos études, on va retourner en Algérie. Il disait retourner en plus de ça, alors qu'on y était, on était né ici. Moi, je m'interroge beaucoup sur effectivement cette réconciliation qui me semble difficile, mais peut-être que c'est un questionnement que je vous pose aussi.
Bah pour moi, le terme il est inapproprié parce que il se focalise pas vraiment sur là où est le problème. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est tous ces groupes mémoriels, on va les appeler comme ça, parce que c'est difficile de les nommer, parce qu'en soi ils sont très très hétérogènes et pas forcément bien définis, etc. Et ben ils ont un vécu différent. Et ils ont un vécu différent qui est un dérivé de leur situation pendant le monde colonial, donc ça qui se répercute après dans la post-indépendance. Donc il y a un vécu différent, et dans les familles, on transmet différemment cette histoire-là.
Donc il y a une singularité de ces groupes, bien sûr.
Il y a une singularité de ce qu'on raconte, il y a des mémoires, c'est-à-dire qu'on va le contenu de ce qu'on va raconter va être différent. Par exemple, dans les familles de Harki, on va beaucoup parler de l'abandon à la fin, de la fin de la guerre surtout. Dans les familles de Pieds Noirs, on va plus parler de la vie avant la guerre et du coup de comment c'était la colonisation. Dans les familles d'immigrés, on va surtout parler de ce qui se passait en France, c'est-à-dire le combat contre le racisme ou la difficulté du travail, etc. Donc on raconte pas forcément.
Et dans les familles françaises, on va parler les appeler. Enfin, il y a aussi une transmission de ce qu'ont vécu les militaires.
Les appeler. Alors les appeler racontent surtout des histoires de camaraderie. Qui laisse quand même pointer la violence, donc on sait que c'est pas non plus le Club Med, quoi. Donc on transmet des choses différentes. Le contenu est différent, la forme que vont prendre les récits sont différents, mais ça ne veut pas dire que les familles transmettent une rancœur, voire pas du tout. Il n'y a pas de transmission des haines des différents groupes. Les jeunes que j'ai interviewés ont tous et toutes vraiment un regard très bienveillant vis-à-vis des autres groupes et expriment une grande curiosité pour connaître l'histoire des autres, parce qu'ils sentent qu'elle est complémentaire de l'histoire de leur famille. Donc finalement, ces jeunes, cette nouvelle génération, ils n'ont pas à se réconcilier, non seulement parce qu'ils se sont jamais battus, aujourd'hui ils sont tous français et françaises, et mais surtout parce qu'ils n'ont pas de vision antagoniste de l'histoire. En France, la réconciliation, elle serait plus à faire dans le monde politique, entre la droite et la gauche, entre la gauche et la gauche, entre la droite et la droite, pour savoir quel est notre rapport à la colonisation, quel est notre rapport à cette histoire-là. Le conflit, il est beaucoup plus politique que mémoriel. Dans cette étude, on montre que finalement, la guerre d'Algérie, elle n'a pas donné lieu à un cloisonnement des mémoires, mais à un cloisonnement des cultures politiques. Et aujourd'hui, il y a des familles politiques qui refusent l'altérité, qui refusent la société créolisée, et d'autres qui sont prêts à l'accepter, et du coup à faire ce travail historique. Et le conflit, il est beaucoup plus là que dans le conflit mémoriel.
Parce que dans cette histoire de transmission, justement sur ceux qui veulent pas entendre cette diversité, cette singularité des groupes mémoriels, parfois ils l'ont transmis. C'est pour ça qu'on peut entendre des nostalgiques de l'Algérie française. Il y en a encore qui disent « on a perdu l'Algérie ».
Bien sûr.
Alors, 60 ans après, des hommes de 70 ans, 75 ans disent « on a perdu l'Algérie ». C'est cette avancée qui est, cette non-avancée plutôt, qui est insupportable. Et c'est politique, puisque c'est souvent
exactement.
Un acte politique que de le dire.
Voilà, et ils le font souvent, non pas parce qu'ils sont forcément pieds noirs ou descendants de pieds noirs, non pas forcément parce que c'est des descendants d'appelés ou de militaires, mais parce qu'ils sont de droite ou d'extrême droite. Et c'est comme ça qu'ils le font. Et parce qu'en fait, ils portent encore l'idéologie coloniale modernisée, qui se déploie peut-être en trois actes. La première chose, c'est de refuser tout travail critique. Donc ils vont inventer un vocabulaire genre pas de repentance, pas d'excuses, et ils vont vouloir bloquer le travail critique et les discussions sur le passé. ils vont continuer à stigmatiser les Algériens et leurs descendants dans un même ensemble. Alors ça ressort à tous les matchs de foot, le supporter algérien qui en veut à la France parce qu'il sort dans la rue avec son drapeau, quoi, comme si ça avait un lien, tu vois. Et ensuite le troisième acte, c'est la victimisation. C'est de présenter la France, les Français, l'identité française comme étant assiégée par l'arrivée des immigrés, par assiégée physiquement et dans l'identité. Et ça, c'est
identité
assez grave.
Identité culturelle, identité religieuse aussi.
Voilà, identité. Enfin, c'est pas vraiment très très clair, mais c'est une manière de se victimiser pour décrire une forme d'agression dans l'identité, dans le symbolique, qui est assez minoritaire dans la société, mais qui a une grande résonance dans l'espace public, puisque Éric Zemmour, par exemple, est complètement porteur de tout ça. Et ça porte en soi un grand potentiel de violence, parce que dans ce cas-là, si on est assiégé dans l'identité, l'attaque n'est plus une attaque, mais une légitime défense. Et ça peut armer beaucoup de jeunes qui sont investis dans les partis d'extrême droite, dans les mouvements d'extrême droite. Et on a vu ces dernières années le terrorisme d'extrême droite ressurgir, avec notamment un groupe qui s'appelait OAS, ça s'invente pas, qui a été démantelé cette année.
Sauce algérienne, on va en parler quand même. C'est un podcast que vous avez avec un collègue, enfin un autre jeune.
J'ai coécrit, oui, avec Maxime Ruiz et Justine Pérez.
Ouais. Voilà, qui sont Justine Pérez qu'on avait vu récemment à la télé, justement, à un débat suite à la projection d'un documentaire sur l'Algérie. Rappelez-nous un peu ce qu'est Sauce algérienne, et puis on donnera aux auditeurs, évidemment, l'envie d'aller sur le podcast.
Alors, Sauce algérienne, c'est un voyage dans la part algérienne de la France. Justement, on est parti rencontrer 6 jeunes qui ont une histoire familiale avec l'Algérie et qui nous racontent comment ils ont grandi dans cette atmosphère au milieu de cette Algérie indéchiffrable, et comment ils ont essayé de comprendre ce que ça voulait dire, résoudre une histoire à énigmes, aller chercher des pièces du puzzle, comment ça a pesé sur leur construction identitaire et les démarches qu'ils ont et qu'elles ont entreprises pour essayer de répondre à toutes ces questions-là.
Et c'est qui ces jeunes-là ?
Alors, on retrouve des jeunes descendants de militants du FLN, de juifs d'Algérie, de pieds noirs, de harkis, et il y a même un descendant d'un militaire engagé à l'OS.
Quel courage.
Oui, quel courage, mais c'est que lui n'est pas du tout dans cette idéologie d'extrême droite, puisque c'est pas ce qui lui a été transmis. Hein. L'idée, c'est pas de faire une équivalence entre les histoires. Hein. On a réuni ces jeunes parce qu'ils ont en partage une volonté de connaître, et ils font aussi des démarches, des quêtes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Sauce algérienne, alors, pour vous nous donnez le podcast où on peut le...
Alors, il est disponible sur Spotify, donc soit sur l'application Spotify, soit sur Internet.
Sur Spotify, Spotify, et voilà, ou sur Internet. Merci, Paul-Max Morin, d'être venu à Beurre FM ce dimanche matin nous présenter Les Jeunes et la guerre d'Algérie. C'est votre livre, il vient de paraître aux éditions PUF.
Merci
à
vous.
Un livre important.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.